Salut à tous, salut à toutes. Vous écoutez les barricades mystérieuses sur RTF 95,4 MHz. Alors, je me suis longtemps demandé, et on m'a demandé ce que signifiait ce titre de cette pièce de Couperin. Et donc j'ai fait des recherches un peu approfondies, et je dois dire que j'ai fait chou blanc, car plusieurs chercheurs, plusieurs musicologues, tous plus savants les uns que les autres, proposent des explications, mais ces explications sont très hypothétiques. Alors par exemple, est-ce que ce serait les barricades mystérieuses, les barrières entre le réel et l'imaginaire, entre le paradis et l'enfer, etc. Alors voilà, il n'y a rien de définitif. Eh ben, je trouve que c'est pas plus mal comme ça, parce que ce titre garde son mystère. Alors, donc, les barricades mystérieuses, quelle que soit la signification, vous prendrez celle que vous voudrez. C'est une émission consacrée à la musique classique et à la littérature. Alors, musique classique, j'essaye de faire le plus varié possible. Et la littérature, donc, deux romans, un roman de Marie-Hélène Lafont, L'Annonce, et puis un roman d'une consoeur, puisqu'il s'agit de Marie Richeux. Marie Richeux qui anime une émission sur France Culture tous les jours, qui s'appelle, je crois, le Bookshop. Voilà. Donc, pour commencer, eh bien, je vous propose d'écouter Les Lamentations de Jérémie. Les Lamentations de Jérémie, qui sont un passage de la Bible, bien sûr, ont été mises en musique par de nombreux musiciens, en particulier par Thomas Tallis, mais aussi j'ai choisi la version de Palestrina, alors 1525-1594. Pourquoi les Lamentations de Jérémie? Eh bien, ces Lamentations du prophète Jérémie font allusion sans doute à la déportation des Hébreux qui ont été déportés à Babylone. Alors, est-ce que c'est par Nabucodonosor, ou alors est-ce que c'est un peu plus tard par Cyrus? Voilà. Toujours est-il que nous écoutons les lamentations du prophète Jérémie par un ensemble néerlandais composé de David Drame, de David Quesilber, de Lavinia Meyer à la harpe, de Naomi Sato. Ils ont des noms un peu compliqués. Voilà, donc un ensemble néerlandais pour nous interpréter ces Lamentations de Jérémie de Palestrina.
Thank you.
Voilà, et bien c'était ces lamentations du prophète Jérémie, interprétées par cet ensemble hollandais de Palestrina. Alors je vous propose de changer et de siècle et de genre, et disons que sa réputation est quand même assez récente, c'est Gérard Lenne qui nous interprète une sonate en do majeur de Joseph Haydn. Alors je pourrais vous donner le Hoboken si je le retrouvais, mais je ne le retrouve pas. Donc tout le monde sait que Hoboken, c'est le musicologue qui a numéroté les œuvres de Haydn, et ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc Gérard Lenne au piano dans cette sonate en do majeur de Joseph Haydn.
Thank you.
Voilà, c'était donc cette fantaisie en ut majeur de Joseph Haydn. Alors, j'ai écorché le nom de Gaspard Dehaene tout à l'heure, donc je rectifie la bonne prononciation. Et puis, cette œuvre superbe, et Haydn donc, a été un des premiers à véritablement bien exploiter toutes les possibilités du piano à l'époque, qui était le pianoforte, et qui est devenu ces beaux instruments que nous avons maintenant, et que pourtant certains prétendent moins sonores et moins jolies que des pianofortés du 19e siècle. Enfin bref, ce sont des affaires de spécialistes. Alors, nous allons faire un saut jusqu'au 20e siècle et je vous propose d'écouter donc un mouvement de la symphonie de chambre en ut mineur de Dmitri Chostakovitch, mort en 1975. Très connu pour ses opéras, très connu pour ses symphonies, très connu aussi pour la jazz suite qui avait servi de publicité à une compagnie d'assurance, je crois. Et Chostakovitch a vécu évidemment sous Staline et il racontait que pendant le stalinisme, il avait tout le temps chez lui, à portée de main, une valise pleine de pull-over vert, d'habits, parce qu'il s'attendait à être arrêté d'un jour à l'autre et même d'une minute à l'autre. Voilà ce qui en dit long sur les bienfaits du stalinisme. Alors, nous allons écouter ce largo de cette symphonie de chambre en ut mineur, interprétée par l'Orchestre de chambre Nouvelle Europe, dirigé par Nicolas Croze, un ensemble que nous avons entendu en Limousin à plusieurs reprises. Bon, ça fait un petit blanc là. Thank you. Voilà, c'était donc un mouvement de cette symphonie de chambre de Dmitri Chostakovitch, interprété par l'Orchestre de Chambre Nouvelle Europe, dirigé par Nicolas Krause. Alors, le premier livre de cette émission, c'est un roman de Marie-Hélène Lafon. Alors, ça s'appelle roman, oui, bien sûr, car les personnages sont sans doute imaginaires, mais sans doute aussi très, très inspirés par des personnages réels. Alors, Marie-Hélène Lafon, elle est professeure de lettres classiques à Paris. Je crois qu'elle est toujours professeure. Et elle a publié pas mal de livres beaucoup parlé à la fois de son pays d'origine, qui est le Cantal, et aussi de ce qui pourrait être un problème, qui ne l'a pas été pour elle, mais enfin, ou en tout cas, elle l'a résolu, qui est cette histoire de transfuge de classe. Vous voyez, ces gens qui, de par la classe sociale dans laquelle ils sont nés, n'auraient pas dû devenir des intellectuels ou des artistes, mais auraient dû continuer comme leurs parents, et pourtant ont réussi à percer. C'est le cas d'Annie Ernaux, bien sûr, c'est le cas de Marie-Hélène Lafon, et le roman de Nicolas Mathieu, qui a eu le prix Goncourt, intitulé « Et leurs enfants après eux », posait également ce problème. Alors là, nous avons, avec ce roman de Marie-Hélène Lafon, l'histoire de... Alors, c'est une jeune femme, elle est célibataire, elle a 44 ans, elle a un fils, et elle habite à Bailleul. Alors, Bailleul, c'est dans le nord Pas-de-Calais, c'est pas loin de la Belgique, et elle a eu ce fils avec un garçon qui se révèle être vite une sorte de vaurien. Il s'appelle Didier. Et il passe son temps entre la maison d'arrêt, les cures de désintoxication, les stages de probation, etc. Et un beau jour, elle en a assez, elle tombe sur une annonce dans le Chasseur français, car je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque ça existait, c'est un roman qui a une dizaine d'années, et dans le Chasseur français, et c'est un agriculteur du Cantal. Qui cherche quelqu'un, qui cherche une compagne, qui cherche une femme. Lui vit dans une grande maison, il a une belle exploitation, il est à l'aise sans être riche, et il vit avec deux oncles âgés, que l'on croit jumeaux et qui ne le sont pas tout à fait, et sa sœur qui fait un peu marcher la maison, et ils ont leur vie comme ça. Alors comment va se passer l'intégration de Annette. Annette, c'est le nom de la jeune femme dont j'ai dit elle a 37 ans en fait. Et donc comment est-ce qu'elle va faire pour s'insérer dans ce milieu avec son fils? C'est une belle histoire. On se dit que c'est pas gagné au départ, et on se dit aussi que Marie-Hélène Lafon aurait pu en faire une sorte de drame sentimental ou de montrer comment tout ça ne peut que mal se terminer. Mais en fait, non, ça a l'air de bien se terminer et de bien continuer. Alors, l'intérêt, il est grand, parce que elle nous montre à merveille la psychologie de tous ces personnages. Annette, qui, quand elle repense à la vie qu'elle vivait à Bailleul, est finalement ravie d'être dans ce petit village du Cantal. Même chose pour Paul, donc, qui est son nouveau compagnon, en tout cas. Et alors, surtout, c'est... le style magnifiquement écrit, extrêmement littéraire, avec beaucoup d'images, beaucoup de belles longues phrases. Et ça en fait un livre extrêmement intéressant, extrêmement touchant, qui se lit facilement et qui se lit avec beaucoup de plaisir. Donc Marie-Hélène Lafon, ça s'appelle « L'annonce » et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Thank you.
Oh!
Voilà, c'est Aria Academica de Boccherini. Alors, le texte est de Metastase, c'est ce librettiste italien très connu qui est l'auteur de beaucoup de livrets d'opéra. Et le texte disait « Si d'un amour tyran, je croyais triompher, laisse-moi dans l'illusion, laisse-moi m'encourager à ce que je n'aime plus, enfin, etc. » Voilà, c'est un air avec violoncelle obligée. Et ce qui s'explique par le fait que la vie de Boccherini est une existence assez étrange. Donc, il est italien d'origine. Il vient travailler à Paris, musicien à Paris. Et un jour, il y a l'ambassadeur d'Espagne qui l'entend et qui est tellement... il est violoncelliste et qui est tellement conquis par son art de violoncelliste, il lui propose d'aller à Madrid. Et Boccherini accepte. Et va finir sa vie à Madrid, où il a composé des quantités de choses. Donc, le célèbre menuet, mais aussi des symphonies, des opéras, voilà. Alors, deuxième livre de cette émission, c'est le roman, je dis le roman parce que c'est marqué roman dessus, de Marie Richeux, publication très récente, puisqu'il a été publié au mois d'août. Et ça s'appelle « Officier radio », roman. Alors, « Officier radio », vous savez, c'est celui qui, sur un navire, assure la radio, les communications, etc. Voilà, de la marine marchande. Et c'est l'histoire d'un oncle de quelqu'un qui s'appelle Marie Richeux, qui est allé consulter les archives, etc., etc. Donc il s'agit bien d'elle, mais ça s'appelle roman. Ça s'appelle roman pourquoi ? Parce que elle a arrangé la réalité, ou plutôt, sans cesse, elle va faire une recherche pour trouver l'explication d'un événement qui s'est produit quand elle était toute petite et qui est la mort de son oncle Charles, de Charles Richeux, donc, le frère de son père, qui était officier radio sur un navire qui appartenait à la compagnie Delmas Vielleux, qui a été vendue après à Bolloré. Et ce navire, c'est un navire qui chargeait du bois. Voilà, qui venait d'Afrique, et il passe au large des côtes italiennes à Civitavecchia, et là, il y a une brume à couper au couteau. Le navire de Charles Richeux est heurté par un bateau italien qui est rempli d'essence. Alors, pas de pétrole brut, non, mais d'essence. Ce qui fait que, à un moment, les étincelles ou on ne sait quoi va subitement enflammé et déclenché un incendie terrible où presque tous les marins vont trouver la mort, et en tout cas l'oncle Charles de Marie Richeux. Alors, on pourra à peine identifier les corps, et en ce qui concerne Charles Richeux, on ne pourra pas. Donc, on ramène les corps comme on peut, dans des sacs en plastique. On va célébrer à Sainte-Anne-d'Auray une sorte de cérémonie, mais qui ne rime pas à grand-chose. Mais en même temps, c'est traditionnel dans un pays, la Bretagne, où les gens meurent en mer, assez souvent. Donc, ça donne ce livre qui est surtout, et sur le grand intérêt de ce livre, c'est une espèce de recherche du passé permanente. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse ? C'est un événement, je répète, elle a une trentaine d'années, ou un peu plus, quand elle écrit ce livre. Et c'est un événement qui s'est produit il y a très longtemps. Et elle a à cœur de retrouver le passé. Et pour ça, elle va chercher dans les archives de la marine, dans les archives diplomatiques. Elle va même à Rome regarder les archives navales pour savoir comment ça s'est passé, comment était le temps, qui a échangé quoi, etc., etc., pour accumuler le plus de détails possible sur cette tragédie qui est pour elle une manière de retrouver le passé, et l'illusion que quand elle saura tout, à ce moment-là, elle pourra, comme on dit, faire son deuil. Mais elle se rend compte aussi que jamais elle ne saura tout, puisque les détails qu'elle apprend contredisent certains éléments qu'elle a déjà appris ailleurs. Ça donne un livre assez attachant, assez intéressant, et ça s'appelle « Officier radio, par Marie Richeux.
Thank you. Thank you.
Voilà, eh bien, vous avez entendu cette sonate pour violoncelle en la mineur de Antonio Vivaldi, interprétée par le Léopold Trio, qui est un ensemble de jeunes musiciens néerlandais. Alors, c'est ainsi que se terminent, que se referment ces barricades mystérieuses, et nous les réouvrirons prochainement. Vous êtes toujours sur RTF 95.4, restez-y, vous y êtes bien. Au revoir à tous.